Caliente.
Interview.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation, Alexandre Arrobio.
Merci de m'avoir reçu.
Alors, je disais, nous allons aborder quelques sujets. Le sujet le plus évident pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc le Tunisia Economic Monitor, c'était la semaine dernière, la parution. Qu'est-ce qu'on apprend dans cette édition?
Ben alors, on apprend que malgré les difficultés que tout le monde sait, on a quand même une économie tunisienne qui est résiliente, avec une amélioration notamment des exportations sur les questions textiles, sur des thèmes comme l'huile d'olive, l'industrie mécanique, puis le tourisme, et qui a permis de avoir une année quand même, assez positive. Je vais vous donner plusieurs éléments. Alors d'abord, malgré les difficultés. Alors d'abord, il y a un point qui est important à signaler, c'est qu'on a une sécheresse importante, je pense qu'on va y revenir, qui a affecté notamment les productions agricoles, et qui a eu un effet général sur l'économie et sur la croissance. En même temps, on a eu des termes de l'échange favorables, puisque d'un côté, on a eu une baisse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, avec, même si on a eu une augmentation peut-être des importations en quantité, compensé et combiné avec ce que j'ai dit, donc des rentrées, notamment au niveau du tourisme, c'était une très bonne saison, notamment avec les retours de fonds de Tunisiens de la diaspora. Et donc, finalement, on a vu que la balance courante s'est améliorée. On a eu une croissance après l'été du nombre de jours de réserve en devise du pays, et qui vont permettre d'assurer jusqu'à la fin de l'année, et ce qui a été fait d'ailleurs récemment, les repaiements de dettes. Donc globalement, on a eu une bonne tenue, malgré ces difficultés que je viens de mentionner. On a également une tenue de la dépense publique avec un déficit qui a été relativement stabilisé, surtout le déficit primaire, qui a fait mieux que ce qui avait été prévu. Mais en même temps, bon, du fait de l'accès limité des prêts internationaux, on a un recours aux prêts intérieurs qui créer une forme d'éviction pour le secteur privé. Et puis, à signaler également, donc de manière générale, on a une croissance estimée à 1,2% pour l'année. Pour l'année prochaine, on pense qu'on devrait pouvoir être, selon nos projections, alors, à voir, hein, il peut y avoir des évolutions, mais 3%. Pour 2024, 3%. Et voilà, on a une économie résiliente, on n'a pas encore atteint les niveaux pré-Covid, compte tenu du contexte, l'économie tient.
Mmh. Aujourd'hui, bon, vous le dites dans le rapport, malgré tout ça, enfin, la Tunisie, elle continue à rencontrer des difficultés pour sécuriser des financements externes requis sur fond de calendrier important, tel que je cite, hein, directement du rapport, calendrier important de remboursement de sa dette extérieure à court terme. Ce qui reflète une dette publique élevée, passée de 66,9% à 79,4% du PIB de 2007 à 2022. Pourtant, c'est peut-être qu'une impression, on a l'air de se porter mieux niveau dette extérieure.
C'est-à-dire que, alors peut-être que, disons, il y a eu, il y a 2 ans, ou même l'année dernière, il y avait une forte inquiétude. On a peut-être surestimé. Alors attention, il y a un niveau de dette qui est élevé. Il y a des défis. Hein, donc niveau de dette élevé, difficulté à obtenir des financements extérieurs, comme vous l'avez dit. Mais en même temps, on n'est pas dans une situation aussi catastrophique qu'on avait pu l'entendre parfois. Donc voilà, donc oui, il y a une amélioration, compte tenu aussi du fait qu'on a eu deux chocs importants depuis quelques années, le Covid, la guerre en Ukraine, avec son impact sur les importations, que ce soit l'énergie ou les produits alimentaires. Donc, vous savez, la part la plus importante de la balance commerciale, ou le déficit commercial, est due aux produits énergétiques. Donc les importations d'énergie, donc quand on a un prix élevé sur l'énergie comme l'année dernière, bon, ça a des effets importants. Donc on est dans une situation, je dirais, oui, de résilience, mais qui a des perspectives correctes, et sur le moyen terme, on espère revenir à des niveaux de croissance plus élevés.
Aujourd'hui, là en lisant le rapport, il porte un titre assez intéressant, que la reprise économique de la Tunisie ralentit en raison de la sécheresse. Donc ce qu'on comprend, c'est que l'économie tunisienne en partie dépend bien de l'agriculture.
Oui, alors ça va même au-delà de l'agriculture, c'est certes, c'est l'agriculture et de manière plus générale tous les effets climatiques que connaît le pays. Alors sur l'agriculture, si on fait le lien entre les deux aspects, donc on a eu une production très faible cette année par rapport aux années précédentes. On est, je crois, dans l'ordre de, pour les céréales, 3 millions de quintaux de production, alors qu'on était sur des niveaux d'environ 7-8 millions de tonnes les années précédentes, avec un pic en 2019 à 12 ou 13 millions. Donc ça, ça implique davantage d'importations. Ça implique parfois donc peut-être des pénuries de produits de base, et c'est quelque chose qui grève l'économie de manière générale. Bon, mais alors cette histoire de sécheresse, il y a eu des études qui ont été faites qui remontent jusqu'à 2010, donc ça fait en fait depuis 2016 qu'on est en situation de sécheresse plus ou moins forte. Avec l'exception de 2019, qui d'ailleurs il y a une corrélation plus qu'une corrélation, puisque on a une production bien plus forte en 2019. Donc c'est un phénomène, qui semble devenir de plus en plus structurel. J'ai pas d'éléments sur les sécheresses à venir, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et que le gouvernement essaie de sur lequel le gouvernement travaille actuellement.
Et ça me permet de rebondir, c'est pour ça que j'allais vers cette question sur la question des changements climatiques et d'autres thématiques, mais que nous allons aborder juste après une courte pause face à l'Arsie Noas Lohiwana, ma Alexandre Arobio, Moudiel Bankedo Aliftos.
Interview.
Moi, c'est Lifi Banamichkom, ma Al-Sayed Alexandre Arobio, Moudir Al-Bank Douali, fi Tunis. Alors, nous parlions de, pour ceux qui viennent se joindre à nous, peut-être résumer rapidement en deux, trois chiffres clés. Donc, croissance pour cette année, croissance pour l'année prochaine. Et puis, c'est un petit peu compliqué sur une éventuelle reprise qui est compromise par la sécheresse.
Donc on a une croissance de cette année estimée qui devrait, selon nous, atteindre les 1,2%. Je crois que le gouvernement avait des estimations même plus prudentes, mais on est dans ces eaux-là. Et l'année prochaine, on estime, dans l'état actuel des hypothèses, qu'on devrait se retrouver sur 3%.
3%.
Alors on a, comme je l'ai dit, on a une économie résiliente avec d'un côté une bonne saison touristique, des exportations, notamment dans l'huile d'olive, dans le textile, dans certains aspects industriels, l'industrie mécanique. Et en même temps, là, cette sécheresse.
Et on le voit encore une fois que l'un des moteurs de la croissance, c'est l'exportation. Et quand ça marche, ça a un impact très positif sur l'économie. Donc
ah oui,
la
oui,
recette, elle est connue chez nous. Donc on voit que quand le tourisme, il y a une hausse des rentrées d'argent, quand il y a l'export qui marche bien. D'un autre côté, quand on voit la sécheresse et on voit tout de suite également l'impact ralentissant de la sécheresse, donc parce que l'agriculture, elle va moins bien, on les connaît aujourd'hui. On connaît à peu près, je pense, la recette.
Oui, effectivement. De toute manière, bon, la Tunisie est un pays, c'est un petit marché qui est proche d'importants marchés. Donc, effectivement, l'export, bon, et en plus, il y a des capacités, des potentialités. Donc, l'export est un élément très important pour la dynamique de l'économie tunisienne, certes. Et le développement du secteur privé, le renforcement par rapport à cette dynamique et à cette tendance sur l'export est très importante. Maintenant, effectivement, alors l'agriculture, la sécheresse sont des facteurs qui sont venus un peu gréver ces notes positives.
Alors, pour rebondir, changement climatique et aujourd'hui la question de la sécurité alimentaire, deux questions cruciales pour l'avenir de la Tunisie qui ont été abordées par la Banque mondiale. Quelles sont les conclusions au bout de ces réunions, de ces échanges sur ces deux questions?
Ben en fait, les deux questions sont liées. Alors, je ne dis pas que ce soit la cause exclusive l'un de l'autre, mais on a, nous le savons tous qui vivons en Tunisie, on a eu une sécheresse particulièrement dure en 2023, avec des pluies très rares, un déficit, je crois que le déficit se comptait en milliards de mètres cubes d'eau, et on a un niveau des barrages qui est à 20-24%, donc ce qui, selon les spécialistes avec qui j'en ai parlé, ça correspond, c'est juste un fond, quoi. Donc c'est des barrages souvent qui ne sont pas utilisables pour ne pas se permettre de les vider complètement. Donc voilà, on a cette situation qui a eu un effet dramatique sur les productions agricoles, en particulier et notamment sur les céréales. Comme je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, on a une production inférieure, légèrement inférieure à 3 millions de quintaux cette année, alors que sur les années précédentes, on était autour de 7-8. Donc ça donne un peu une idée. Hein, alors, 80, à peu près, presque 100, enfin 98% de cette production, c'est du blé dur. Mais bon, on a eu un besoin d'importer supérieure aux autres années, et en même temps aussi des pénuries de produits basiques. Ça, ça se combine avec aussi un mécanisme complexe de contrôle des prix et de certains monopoles sur les achats. Donc tout ça mélangé rend la situation difficile. Et le gouvernement travaille à assurer un approvisionnement en produits agricoles et notamment produits céréaliers qui soit soutenable. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment sur l'orge. Il y a eu des ajustements sur les prix. Je crois que les prix pour les producteurs nationaux ont été augmentés, ce qui est à la fois une incitation pour les producteurs, et en même temps, vaut mieux essayer d'acheter, de produire de manière nationale que d'importer. Donc ça, c'est une série de choses sur lesquelles le gouvernement a déjà travaillé, continue à travailler, et donc sur cette question, on a eu une réunion récemment pour voir comment la Banque mondiale peut aider avec d'autres partenaires, le pays et le gouvernement dans cette situation. On a déjà fait l'année dernière, il y a eu une aide, nous-mêmes avions contribué avec un financement de 130 millions de dollars, et la BEI, la BIRD, la BAD, et certains, je crois l'Union européenne également, les États-Unis ont contribuer, on avait en total un programme d'environ, je crois, autour de 400 millions de dollars d'aide l'année dernière. Et cette année, on va voir comment on peut travailler pour aider face à la situation d'urgence et en même temps pour aider le gouvernement dans son engagement, son programme de soutenabilité de la filière.
Alors, Alexandra Obio, je profite de votre présence également. On voulait parler du Monitor, on voulait parler de ces deux réunions, mais une question aussi importante, surtout pour rebondir. C'est l'avenir, peut-être, des relations Banque mondiale Tunisie. Donc, quelles sont peut-être les priorités, quels sont les axes du développement de cette relation. Et puis, un petit focus sur la question de la transition énergétique qui est essentielle pour l'avenir de la Tunisie. Parce que j'ai vu le rapport, il donne froid au dos, le dernier rapport de la Banque mondiale dans le monde sur les prévisions, les projections sur les prix du baril avec ce qui se passe, etc. Enfin, les pires scénarios pourraient être catastrophiques pour un pays comme la Tunisie. Déjà, même les scénarios les plus optimistes sont à la limite du raisonnable comme impact par rapport à notre économie. Alors que dire si ce qui se passe aujourd'hui peut aller plus loin, donc ça peut avoir un impact. Voilà, donc la question de la transition énergétique qui est essentielle.
Alors d'abord, vous m'avez posé la question sur la relation entre la Banque mondiale et la Tunisie. Mais en fait, de notre point de vue, les relations sont bonnes. Alors comme vous le savez, notre mission, c'est... alors d'aider nos pays membres, nous sommes à leur service pour à la fois fournir des financements sur leur demande, sur la demande en fonction de cadres généraux. On avait adopté il y a 6 mois, en coordination et en consultation avec le gouvernement, un cadre, une stratégie, si vous voulez, un cadre de partenariat sur 5 ans avec des priorités. Je pense que le travail qu'on a fait là-dessus était flexible et donc il va permettre de nous adapter aux évolutions, nous, c'est-à-dire le gouvernement tunisien et nous-mêmes. Donc ça, je pense, c'est une bonne chose. Et puis ensuite, on a un travail de conseils ou d'assistance technique qui également est fait sur base de demandes du gouvernement, plus certaines publications comme le bulletin de conjoncture économique. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait, tout ça pour travailler avec les pays, pour réduire la pauvreté dans une planète dans laquelle on peut bien vivre. On a eu lors de nos réunions annuelles récemment à Marrakech, on a avec nos États membres réfléchi, notre président avec les États membres a redéfini un petit peu notre cadre en essayant par justement en anglais c'est reducing poverty in a livable planet, et donc de pourvoir des thématiques importantes comme notamment le changement climatique. Et donc, effectivement, il y a des perspectives. Si vous voulez, le coût de l'inaction peut être très élevé. Dans un pays comme la Tunisie, les estimations seraient, si on ne fait rien, ce qui n'est pas le cas, on pourrait avoir un impact de l'ordre de 4% du PIB d'ici 2030, en consolidé. On a des effets selon les thématiques, donc sur l'eau, j'en ai déjà parlé, il y a des problèmes graves au niveau des ressources en eau, il y a aussi des problèmes d'érosion. Alors, on estime que, je crois, si c'est jusqu'à 2050, il y a un risque que 24% des zones côtières soient affectées. Il y aurait des coûts très élevés. Alors bon, c'est des estimations, hein, 1,5 milliard de dollars de pertes sur les terres qui seraient affectées par l'érosion marine. On a également des problématiques sur l'effet carbone. Sur l'énergie, alors là, sur l'énergie, il y a à la fois l'effet carbone, puis, je l'ai dit précédemment, avec, comme ces énergies hydrocarbures sont importées principalement, ça impacte aussi l'économie, la balance commerciale. Donc, on a effectivement des problèmes sérieux devant nous, mais surtout si on ne fait rien. Alors, le gouvernement a pris des décisions et des mesures importantes. Il y a le plan national de développement qui a été préparé l'année dernière. On a aussi, je crois, une stratégie de transition écologique qui est en cours. Donc, il y a également, alors, pour revenir aux aspects de sécurité alimentaire, toutes ces thématiques que j'ai mentionnées sont incluses dans les stratégies du secteur de l'agriculture. Et donc, l'idée, c'était, lors de ces réunions que vous avez mentionnées, de voir comment on peut travailler ensemble. Alors nous, on va bientôt publier un rapport qui a été élaboré en coordination avec le gouvernement et qui essaie de voir à partir des stratégies nationales, des programmes existants, des hypothèses et de voir qu'est-ce qui pourrait être fait. Et on s'est axé sur des thématiques comme l'eau, des thématiques comme la gestion des risques naturels ou catastrophes naturelles, et c'est un thème qui m'est cher, mais sur les énergies renouvelables. Donc voilà, et c'est des thèmes sur lesquels le gouvernement travaille et sur lesquels nous avons, sur chacun de ces domaines, des programmes déjà existants. J'en veux pour preuve que, notamment sur les questions de l'inondation, de risques naturels, nous travaillons depuis, je crois, environ 2018 ou un peu après, avec le gouvernement, la suite des inondations de Nabeul. Voilà, on avait commencé un programme conjointement avec l'AFD pour aider le gouvernement dans la construction d'infrastructures permettant de canaliser ou de limiter les risques d'inondation. J'ai eu l'occasion de visiter certaines de ces infrastructures et même de m'entretenir avec des citoyens qui sont effectivement très satisfaits de cela. Donc, sur les thématiques de l'eau, nous avons également des programmes existants, des financements sur des programmes gouvernementaux pour améliorer l'irrigation agricole, pour rénover ces systèmes, pour s'assurer qu'il y ait moins de pertes. Et puis, on a approuvé récemment, et en fait, je crois que ça a été adopté maintenant par le Parlement, un programme pour appuyer tout ce qui est utilisation ou réutilisation des eaux usées avec des systèmes de concession qui sont gérés par l'ONAS. Et sur les énergies renouvelables, on a eu l'occasion d'en discuter précédemment. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Il y a ce projet des 1700 mégawatts que le gouvernement souhaite développer à travers des concessions. On a, bon, récemment, je crois qu'il y a à peu près un mois, il y avait une première tranche sur les 500 mégawatts qui avaient été initiés il y a quelques années, qui ont été signés par le gouvernement et le concessionnaire. Donc, je ne vais pas revenir sur le projet Elmed aussi, auquel nous contribuons, et qui, enfin, il y a toute une logique qui se met en place. C'est des projets complexes, c'est des projets ambitieux qui vont prendre du temps, mais qui vont dans la bonne direction. Mmh.
Elmed, peut-être, oui, c'est un projet complexe, enfin ambitieux pour les autres, ça devrait pas l'être. Enfin, c'est ce qu'on commence à croire à force de voir que ça prenne du temps, mais en fin de compte, c'est pas des super méga installations compliquées à faire. Ou c'est, j'ai l'impression que c'est plus administrativement que ça se complique. Mais bon.
Oui, enfin, tout projet d'investissement public. À ses exigences.
Est-ce que vous appuyez ça indirectement, d'une manière directe ou indirecte, par rapport aux concessions? Alors, vous appuyez Elmed clairement, mais est-ce qu'il y a,
sur les
y a des mécanismes prévus?
Non, sur les concessions, en fait, c'est plutôt la SFI qui finance. Nous, on ne finance pas le secteur privé.
Peut-être techniquement.
En fait, sur le secteur de l'énergie, ça fait très longtemps que le gouvernement et la Banque mondiale travaillent ensemble, donc sur effectivement des revues de projets préliminaires, des travaux sur les mécanismes, les réglementations liées à cela.
Mmh. Une dernière question par rapport à tout ça, au régime de concession et autres. Qu'est-ce qui pourrait donner un coup aujourd'hui, un coup de pouce très positif à ce régime des concessions? Enfin, quand on voit plus de concessions, quand on voit le dossier avancer, s'il y a une chose qui pourrait... Il y en a peut-être pas mal, mais si on avait une...
Je pense que finalement, pour moi, la chose la plus importante, ce serait le consensus sur ces questions, le consensus des différents acteurs, au sein du gouvernement, à l'extérieur, et au niveau du monde des affaires, au niveau des investisseurs et au niveau des acteurs internationaux comme nous. Je pense qu'il faut être pragmatique. Voilà, avoir un consensus, être pragmatique, en essayant de garder le cap sur cet objectif que le gouvernement s'est fixé, à la fois d'atteindre les 35% en 2030 et d'arriver à développer une capacité de... Alors on a des 500 mégawatts plus les 1700, donc c'est quelque chose d'important. Et se concentrer sur ces objectifs. Alors peut-être, oui, vraiment de se concentrer sur cet objectif.
Merci beaucoup, Alexandre Arobio, directeur de la Banque mondiale, des opérations de la Banque mondiale en Tunisie. Merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions ce matin.
Merci.
Shukrandi Kassaid Alexandre Arobio, Moudir Banque Douali fi Tunis. Fasl Rajain Bachoya, بعد اخبار 8:30 مواد رياضه باش يكون معنا السيد ميشيل بوزالي هو مدير مدير بزنس فرانس في شمال افريقيا. رجعين.